être servi. Je rajoute à votre peine en vous rappelant que l'intrigue de Soleil Vert se déroule en 2022. Voilà, j'ai fini de caser mes vœux. Vous pouvez en faire une omelette. Aujourd'hui, on va mettre un peu d'ambiance et de bonne humeur avec le roman d'Olivier Gallien, Dans la neige ardente, chez Robert Laffont. On écoutera une lecture d'extrait par Linda, puis une interview de l'auteur, pour ce qui est un premier roman lumineux. Non, je déconne, c'est comme pour Soleil Vert. Il y a de l'espoir, mais surtout de l'apocalypse. Luc, lui, nous emmènera pour sa toute première fois avec Joséphine Tay. Nous parlerons ensuite de La femme déshonorée de Robert Stevenson avec Eddie Lamar. Ça, c'est sorti chez Artus Film. Enfin, nous vous offrons le premier Quiz Quiz Bang Bang avec Toops au saxo. Avec vous aujourd'hui donc, Linda, Luc, Toops et Julien pour une émission enregistrée dans les conditions du confinement. Vous écoutez Calibre 58, l'émission qui vous donne envie de vous plonger dans le noir. Et maintenant, générique maestro. reprend les bonnes vieilles habitudes. Vous écoutiez Innocent When You Dream de Tom Waits, un choix bien singulier pour vous présenter un premier roman qui va vous plonger dans un monde dévasté. Dans La Neige Ardente d'Olivier Gallien, dans la collection La Bête Noire chez Robert Laffont. Alors, de quoi est-il question ? Eh bien, de la trajectoire inversée de deux personnages, Hugo et Pauline, dans un no man's land. L'histoire se déroule dans une ville scindée en deux par des barbelés. D'un côté, la civilisation a disparu. De l'autre, presque. C'est important de le noter. Pauline, au début, elle est sous terre dans les tunnels du métro. Si elle y reste, elle va certainement mourir. Alors, elle refait surface et se dirige vers son chez-elle avec une certaine abnégation et une balle dans le dos. Au même moment, Hugo, lui, il quitte la tranquillité toute relative de son appartement. Faut dire que le père vient de mourir. Il ne lui reste que de maigres illusions ramenées par un Paul mourant lui aussi. Alors, Pauline doit retrouver Hugo et Hugo doit retrouver Pauline, c'est écrit. Seulement voilà, le décor est digne d'un western post-apocalyptique. Les rencontres sont donc dangereuses. La mort et la faim, F-A-I-M, rôdent un peu partout. Pourtant, donc, je l'ai dit, les deux finiront par se retrouver. Ils feront même des rencontres qui les marqueront. Le retour, lui, ne sera pas de tout repos, on l'imagine très bien. Faut dire que l'on a affaire à une jolie bande d'éclopés. Pauline avec sa blessure au dos, le chien avec ses trois pattes et Hugo avec son moral en berne. Qu'importe, comme dans La Grande Évasion et autres fictions avec une fuite en avant, le moment de franchir une frontière sera crucial. Alors, qui donc sera Steve McQueen ? On écoute la lecture d'un extrait, puis on plonge avec Olivier Gallien dans les arcanes de son roman.
J'étais dehors, enfin. Entouré de clarté, les deux pieds posés devant le sas qui m'avait permis de sortir de notre prison. J'ai joui de chaque rayon de lumière qui transperçait le ciel gris. Les yeux clos, visage offert. J'ai attendu qu'un morceau de métal vienne transpercer l'air épais, sûr de sa destination. Et qu'il m'emmène rejoindre Fredo au royaume du rien. J'ai levé les bras, les paumes ouvertes devant moi. Je les ai observées un instant avant de les poser sur mon visage. Et puis j'ai hurlé. Tirez, bande de chiens ! Tirez ! Et qu'est-ce que vous attendez ? Ça s'est mis à siffler autour de moi. Le son aigu des balles déchirant le calme, suivi de celui de l'impact sourd, atténué par la couche de cendre. Je les ai sentis me frôler le visage. C'était comme des caresses. Je me suis redressée, les pieds toujours bien ancrés dans le sol mouvant. J'ai levé la tête vers le ciel, offrant ce qui restait de moi aux chasseurs invisibles. La douleur a surgi. Le plomb s'est introduit dans la chair et je suis tombée, la tête en avant, sous le poids de l'étonnement. Avant de perdre connaissance, j'ai aperçu la pierre affûtée que ma tête s'apprêtait à percuter. Dans la nébuleuse, les mirages sont apparus. Celui de ma mère se faisait plus insistant que les autres. Je l'avais perdu il y a si longtemps. Bien avant que toute cette infamie ne commence. À peine l'âge de réaliser qu'elle était partie dans un endroit d'où on ne revenait plus. Elle s'était endormie un soir, alors que je venais d'entrer dans ma 8e année, et ne s'était jamais réveillée. Une bête d'artère dans son cerveau avait décidé de se boucher et de me l'enlever à jamais. Je m'étais persuadée que son image s'effacerait avec le temps. C'est ce qui me terrorisait le plus, d'imaginer que même le souvenir puisse disparaître et qu'alors il ne resterait finalement plus rien d'elle. Plus rien qui prouve qu'elle était là, qu'elle avait été là, vivante, aimante, qu'elle avait foulé le monde de sa démarche assurée, de son pas sec, énergique. Elle avait été ma mère. Les images étaient dressées pourtant, plus ou moins nettes dans mon esprit selon les jours, Rien ne s'était totalement dissous et elle me revenait, une fois encore, plus présente, plus réelle que d'ordinaire, m'accueillant avec amour. Elle était là. Elle me parlait de son pays, comme autrefois. Ça me faisait du bien. Sa voix grave qui laissait traîner les mots, l'accent qui roulait comme des vagues sur les syllabes rocailleuses. Elle m'a pris la main, assise dans la cuisine, le regard perdu par-delà les carreaux tachetés de gris. Je sentais la peau épaisse et dure, pleine d'aspérité, qui faisait penser à une sorte de plastique tendre qu'on aurait frotté sur des graviers. Elle parlait des grandes avenues et des couleurs. Elle aimait ça, les couleurs. Elle en mettait partout dans ses phrases. Les panneaux indiquant les rues étaient bleus, les bus, les trams étaient rouges et jaunes, les bâtiments gris ou bien blanc passé, sale. Les pavés, ils étaient beige ou noir charbon, ça dépendait des jours. Et puis elle s'est mise à chanter, de cette langue qui tournoie dans la bouche. Je ne comprenais pas tout. Je saisissais des bribes, des choses que j'interceptais au vol et qui disaient « Amour, tu me manques » ou « Les fleurs ont fané, mais le printemps reviendra. » Des choses comme ça. Des ritournelles pour les enfants qu'elle avait amenés avec elle. Elle a entouré ma taille de ses bras robustes, amenant ses deux seins imposants au niveau de mon visage comme une invitation. J'y ai enfoui mon menton. Sa peau avait une odeur de savon et d'oignon frit. Je sentais ses ongles qui me grattaient doucement le bas des reins, puis les omoplates avant qu'ils ne remontent jusque sur le haut de mon crâne. Elle continuait de fredonner des choses insensées, doucement, dans le creux de mon oreille. C'était bon de la retrouver. Sa voix, ses petites chansons murmurées pour elle-même, ses mains épaisses qui enveloppaient mon corps. Et puis les fenêtres de la cuisine, les syllabes qui dansent et qui font frémir les tympans.
Olivier Gallien, bonjour.
Bonjour.
Vous venez donc de faire paraître chez Robert Laffont dans La Neige Ardente. C'est votre premier roman, il est publié dans la collection La Bête Noire et vous avez choisi un monde apocalyptique. Pourquoi ?
À la base, quand j'ai commencé l'écriture du roman, je ne voulais pas parler de ça de façon, enfin j'avais pas décidé d'écrire un roman apocalyptique ni un roman qui se passe dans une ville en guerre d'ailleurs. Je voulais écrire sur le deuil, je voulais écrire sur moi je sortais d'une période compliquée où je venais de perdre où je venais de passer de longs mois à l'hôpital m'occuper de mon père et je voulais écrire sur ça, sur la perte, sur le deuil pendant que je le vivais. Et j'ai commencé à essayer d'écrire sur ce sujet-là de façon un peu frontale et j'avais du mal, j'arrivais pas à trouver le bon moyen de d'entrer dans cette histoire et de parler de ça. Et puis finalement ça s'est un peu imposé à moi. J'ai commencé ce premier chapitre de Hugo qui est en haut d'une tour et qui regarde sa ville et sa vie complètement détruite et en train de se faire ensevelir sous une espèce de cendre qui tombe en permanence. Et du coup, j'ai choisi pour moi d'écrire quand même sur le deuil, mais de façon plus métaphorique à l'échelle d'une ville qui est complètement ensevelie par la mort et qui est recouverte d'une cendre complètement mortifère en permanence. Et le parti pris, c'était du coup d'avoir des personnages qui malgré tout ça cherchent toujours à vivre, à survivre et à essayer d'aller à trouver la vie, à trouver des moyens et des raisons de pas laisser tomber et de continuer à vivre, avec deux personnages qui le font d'ailleurs de façon assez différente, parce que Hugo au début du roman, lui pour le coup il a plutôt laissé tomber, il est plutôt enfin il se cache, il est il a abandonné. Alors que Pauline, elle, qui est de l'autre côté de la ville, qui est du côté de la ville qui est pour le coup complètement détruite, a plus plus d'élan et plus de... Elle cherche, en tout cas, elle a cherché, avant de se retrouver coincée là où elle est coincée, à affronter les choses et à pas forcément les subir.
Oui, alors donc vous avez deux personnages qui sont assez lumineux et donc vous utilisez la métaphore ou l'image tout au long du roman. Votre ville, elle est scindée en deux parties, comme vous l'avez dit. Elle est séparée, ces deux parties sont séparées par un mur de barbelés avec des miliciens. En quoi ce mur symbolise-t-il le point de non-retour ou le point de bascule des personnages ?
Il symbolise le point de bascule et le point de non-retour parce qu'il y a une partie de la ville, ça c'est sûr, qui pour le coup est complètement morte, détruite, et on sait que même Hugo au début du roman, à aucun moment il se dit qu'il va franchir cette frontière et se rendre là-bas, et surtout il pense que tous les gens ou tous les proches qui ont pu le faire sont morts, et pour lui il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune raison de traverser. Et justement, elle symbolise d'une certaine façon le point de non-retour, le point de bascule vers la mort, vers l'anéantissement, mais aussi c'est quelque part l'inverse pour Hugo aussi, parce que lui pour le coup il est caché du bon côté de la ville dans son appartement et il vit, mais il vivote, il a tout abandonné, il vit sans raison, sans but, et en fait il va se révéler et retourner vers la vie au moment où il décide de traverser cette frontière pour essayer de retrouver Pauline, et où d'un coup il a un but et une pulsion de vie du coup qui revient, parce qu'il a une raison de vivre d'un coup qui revient, et donc il franchit cette frontière en plongeant vers la mort d'une certaine manière, et c'est pourtant ce qui le ramène aussi vers la vie et ce qui le ramène vers le fait d'être vivant, et qui le raccroche à quelque chose qui le fait vibrer, une petite étincelle d'espoir qu'il avait complètement perdu. Et Pauline, elle, pour le coup, elle est déjà de l'autre côté, parce qu'elle a, au contraire de Hugo, elle a dès le début décidé d'affronter la vie et d'y aller de son propre chef, pas pour les mêmes raisons, mais elle a pas baissé les bras comme son frère, en tout cas, ou en tout cas si elle le fait, elle le fait bien plus tard, quand vraiment elle est coincée dans le métro. Parce que c'est là que commence le livre pour Pauline, elle est coincée, elle est cachée dans les sous-sols du métro avec des amis. Et elle finit par sortir au début du roman, à sortir de sa cachette elle aussi.
Oui, alors il faut bien dire que Pauline et Hugo sont un frère et une sœur. En quoi il est particulier ce lien entre eux et que sont-ils prêts à sacrifier ?
Alors Hugo et Pauline sont frères et sœurs. Alors ça, on l'apprend pas tout de suite dans le roman d'ailleurs, c'est quelque chose qui intervient un peu plus tard. Au début du roman, on ne sait pas vraiment quelle est leur relation. On sent qu'il y a une relation forte entre eux, mais on peut se questionner sur le fait. On peut se demander si c'est un couple ou si c'est voilà. Et on a cette révélation entre guillemets plus tard dans le roman. Et j'ai oublié la question, pardon.
Là, en quoi il est particulier ce lien entre eux et qu'est-ce qu'ils sont prêts à sacrifier?
Alors, il est particulier. Déjà, ce que je trouvais intéressant, c'était de voir la différence de caractère et au sein même d'une fratrie, et la différence de relation qu'ils ont aussi avec leur père et aussi avec leur mère, parce qu'il est aussi question du père, du coup, dans le livre. Et je trouvais intéressant de suivre comme ça ces deux personnages, un masculin et un féminin, et puis surtout, leur relation amène quand même quelque chose de l'ordre de l'amour qui est assez beau, je trouve, et c'est ce qui les pousse à survivre, et c'est l'amour qui finalement arrive à surpasser l'environnement complètement mortifère et la violence et la douleur, et c'est ce qui fait qu'ils s'accrochent et qu'ils s'accrochent l'un à l'autre et qu'ils arrivent à dépasser et à se dépasser surtout dans des situations extrêmes.
Oui, alors j'avais envie de vous poser une question sur l'importance du père, mais elle va être un peu redondante avec ce que vous avez dit au début, c'est-à-dire que vous avez voulu écrire au début un roman sur votre père. Donc, on comprend un peu plus l'importance du père dans ce roman. Tous les personnages de votre roman sont présentés par leur prénom, hormis les miliciens. Pas de nom, pas de surnom. Est-ce que vous pouvez nous dépeindre en quelques traits Fredo, Joseph, Paul et Camille, tous les quatre, ou un des quatre qui vous paraît le plus intéressant ? Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont que des prénoms ?
C'est des personnages que j'ai. Alors, je les aime tous énormément déjà. Même les pires, parce que Joseph, c'est quand même un personnage assez horrible, mais que je trouve très intéressant. Et Camille aussi, j'aime beaucoup le personnage de Camille, qui est la pauvre. Camille, elle apporte un moment de plus léger peut-être, et elle apporte aussi un souffle à Hugo, un moment donné, dans le roman où il en a vraiment besoin, des questionnements aussi, et elle ramène aussi d'une certaine façon Hugo vers la vie et vers une possibilité d'amour qu'il avait complètement oublié, et ça le ramène quand même à quelque chose d'humain. Elle le ramène à l'humain, à quelque chose d'assez fort et d'assez beau, je trouve. Et pourquoi ils n'ont pas de surnom ou de nom de famille? Ça, c'est un parti pris, de la même façon que la ville n'a pas de nom, elle est jamais citée, que l'époque non plus n'est pas citée, même si on a des indications et qu'on se doute que c'est dans une période actuelle et que la ville est plutôt une ville occidentale, voire une ville française. J'aime bien l'idée que les personnages, qu'on en sache le moins possible sur leur, alors pas sur leur trait de caractère, ni physique, ni ça c'est important de le faire, mais sur leur la façon dont ils sont nommés, parce que je trouve que ça aide aussi. Après, c'est un avis personnel, mais ça aide le lecteur à se mettre dans la peau des personnages et à imaginer, à se dire ça pourrait être moi qui, voilà, ça pourrait être moi ce personnage, je pourrais être là dans cette ville. Et de la même façon, ne pas citer l'endroit ni la période, je trouve que ça laisse aussi au lecteur la possibilité d'imaginer un peu ce qu'il veut. Et ça, j'aime bien l'idée qu'un lecteur puisse s'approprier sa lecture et la faire sienne et faire quelque chose qui lui est propre avec et que l'auteur n'avait pas forcément décidé à la base.
Oui, alors ça donne un côté universel au roman, bien entendu. Et comme vous l'avez dit, il y a quelques pistes qui peuvent nous aider, au moins dans la temporalité, à nous repérer. Et parmi ces pistes, il y a la musique et le cinéma qui sont très présents. Qu'est-ce qu'ils amènent dans un monde qui s'écroule ?
Ils amènent beaucoup de choses. C'est un rempart. C'est un rempart contre la cruauté, la violence. Et voilà. C'est la part d'humain et la beauté de l'humain qui ressort alors qu'on est malgré tout dans une ville en guerre où des choses atroces se passent. Et il y a quand même ces petits rappels dans le roman de ce dont est capable aussi l'humanité, c'est-à-dire de choses formidables. Et ça passe aussi par l'artistique. Et du coup, il y a des films qui sont cités et la musique est assez présente, assez omniprésente dans le roman, que ce soit au début avec le Requiem. Hugo chez lui il écoute de la musique, ou après plus tard il y a une chanson de Tina Turner qui est citée. C'était important, je trouve, pour moi de mettre de la culture et de l'art dans un lieu qui ne s'y prête pas ou qui ne s'y prête plus du tout.
Vous venez de parler d'une musique, d'une chanson de Tina Turner. Mon petit doigt me dit que c'est celle qu'on va écouter à la suite de cette interview. Alors, c'est laquelle ?
C'est Proud Mary. Pourquoi Proud Mary ? Parce que j'aime beaucoup déjà cette chanson. Déjà, c'est une bonne raison. Et ensuite, c'est une chanson qui est rythmée, qui est assez vivante. Et j'aimais bien l'idée qu'elle soit justement pas du tout dans la thématique du roman, où le roman on pourrait imaginer des musiques très sombres, très tristes. Et là, d'un coup, cette musique un peu avec c'est la voix de cette femme qui est puissante et qui va vraiment vers la vie et qui crie. Sa force de vie. Je trouvais ça intéressant, surtout à ce moment-là dans le roman où Pauline est vraiment mal barrée, pour vous dire les choses.
Et oui, il faudrait y rajouter que cette musique se tient sur une cassette, ce qu'on ne voit plus trop souvent aujourd'hui. Eh bien, Olivier Gallien, je vous remercie. Et je rappelle le titre de votre roman, Dans la neige ardente, c'est dans la collection La Bête Noire de chez Robert Laffont. Merci, merci. Et pour nos chers auditeurs, précipitez-vous sur ce roman. Voilà, à bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt. Merci.
You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing.
Job down in the city.
You see, we never, ever do nothing.
Working for the man.
Nice.
Every night and
easy.
Day.
We always
but
do
I
it.
Never lost
nice.
One minute
and
sleep.
Rough.
And I will work.
But we're going to take the beginning of this song.
The thing
and do it
been
easy.
Big we
to the finish. Rough.
Proud Mary.
It's the way we
keep
do.
On burning.
Proud Mary. And we're rolling. Listen to the story. Left a good job
down in the city.
Working for the man every night and day. And I never lost one minute of sleep.
And I was worried
about the way that things might have been.
You know that
big wheel keep on.
Écoutiez Proud Mary de Tina Turner, choix musical d'Olivier Gallien, l'auteur de Dans la neige ardente, qui vient de sortir dans la collection, je le répète, La Bête Noire chez Robert Laffont. On le remercie chaleureusement et on vous conseille la lecture de son roman. Mais c'est maintenant l'heure de la toute première fois de Luc. Ce coup-ci, c'est avec la romancière Joséphine Tay, T-E-Y, une sorte de tea cake lady, quoi. Peut-être ne la connaissez-vous pas. L'occasion de découvrir cette écossaise née McIntosh. Alors Luc, c'était comment ?
Aujourd'hui, retour en Grande-Bretagne pour cette chronique, et plus précisément en Écosse. Et oui, pour cette toute première fois, c'est d'une des pionnières du genre, Elizabeth McIntosh, alias Joséphine Tay, dont je vais parler, et sa toute première fois à elle porte le titre « Le monogramme de perles » et a été publiée en 1929. L'histoire commence devant le théâtre Wolfington à Londres pour une des dernières représentations données par Rayma Coble, jeune et belle comédienne adulée. La foule se presse et se bouscule en une longue file d'attente. Elle avance au fur et à mesure des entrées. Juste avant la caisse, soudain, un homme s'effondre. Dans un premier temps, on croit à un accident de santé, mais oh, horreur ! On découvre dans son dos un poignard enfoncé jusqu'à la garde. D'après le médecin qui examine le corps, l'homme est mort depuis un certain temps. Il n'aurait tenu debout que parce qu'il était pressé par les spectateurs dans la file. L'inspecteur Grant du Criminal Investigation Department de Scotland Yard est missionné pour résoudre cette mystérieuse affaire. Il est jeune, 32 ans, il est beau, il s'habille avec un goût exquis, il est intelligent, il n'est pas cynique et pour ne rien gâter, il est riche et pourrait se dispenser de travailler, mais son job lui plaît. L'assassiné ? Impossible de l'identifier. Il n'était accompagné par personne, aucune étiquette sur ses vêtements et dans la foule qui se pressait, personne qui ait rien vu. Pas d'autre solution pour l'inspecteur Grant de publier une annonce dans le journal pour réussir à identifier l'inconnu. Les choses vont se compliquer quand à Scotland Yard, on va recevoir une enveloppe contenant de l'argent et un mot pour payer l'inhumation de l'inconnu. Mais un témoin va parler, un cuisinier français qui va signaler qu'il a vu une personne parler à l'assassiné, s'énerver, puis partir rapidement. Il en dresse un portrait robot et Grant va engager les recherches. Avec persévérance, il va découvrir l'identité de l'assassiné et remonter la piste jusqu'à son colocataire. Mais celui-ci s'échappe en Écosse. Grant ne lâche pas le morceau et prend le train vers les landes perdues du nord de la Grande-Bretagne. Voilà un roman parfaitement bien construit et pour une fois, pour l'époque, avec un enquêteur qui n'est ni dans le mépris, ni dans la condescendance, ni dans la morgue. Joséphine Tay nous met dans la tête de l'inspecteur Grant et nous fait participer à tout son cheminement intellectuel. Le lecteur avance en même temps que lui. Il n'y a pas de ces grossiers chausse-trappes dont certains auteurs raffolent pour perdre le lecteur. Jusqu'à la résolution de l'affaire qui est pour le moins surprenante. C'est un roman très bien construit et la traduction de Anne Dorier et Dominique Chambron semble plutôt respectueuse. Joséphine Tay manipule un humour allusif, subtil. Par exemple, dans cette phrase « Puis il se rendit à l'église, un bâtiment de briques rouges d'une laideur si parfaite qu'elle ne pouvait être due au hasard. » Ou quand elle fait dire à Grant, après une déduction pertinente de son adjoint Williams, « Vous feriez un très mauvais Watson, Williams, vous vous sortez de toutes les énigmes. » Parce que Conan Doyle et Sherlock Holmes sont évoqués en référence à plusieurs reprises. Joséphine Tay sait décrire en quelques mots les situations. L'improbable foire lorsque les spectateurs attendent d'entrer au théâtre Wolfington tout au début du roman, par exemple. Mais elle sait aussi poser en quelques traits un paysage. Ces tableaux de la lande écossaise font à la fois rêver et frissonner. Un dernier élément qui peut nous étonner, nous lecteurs du XXIe siècle, c'est la nature de la relation entre les deux jeunes hommes Sorel et Lamont. Telle qu'en est faite la description, nous la lisons comme une relation homosexuelle alors qu'il semble ne s'agir que d'une relation amicale. D'un côté, cela pourrait être une analyse anachronique. D'un autre, ce peut être malgré tout l'intention de l'autrice, tenter de façon allusive de transgresser les tabous d'une société anglaise corsetée. Le roman est disponible chez 10-18 dans la collection Grand Détective, ce qui n'est que justice. Joséphine Tay a fait vivre Alan Grant 6 autres aventures et elle a écrit aussi sous le pseudonyme de Gordon Daviot. Mais ceci est une autre histoire.
Bon, Joséphine Tay, c'est un peu le souvenir d'un certain âge d'or des littératures policières anglaises flegmatiques. C'est l'heure maintenant de notre quiz bang bang musical. Aujourd'hui, on vous cause d'un film sorti la même année que Le Parrain. Saurez-vous le découvrir ? Mystère, mystère. Nous sommes en 1972, et si pour Vladimir Cosma, les feuilles mortes se ramassent à la pelle, pour Pierre Richard, en revanche, c'est plutôt les emmerdes. Lui, il joue un violoniste talentueux. De son talent, on ne doute absolument pas. Plus tard, il sera un jouet, une chèvre, un compère, et même un fugitif. Il s'associera, façon bande de malfaiteurs, avec Gérard, le grand, l'unique. Ici, il éprouve le troisième larron de ce trio d'amis complices, Jean Carmet. Car Jean Carmet, dans ce film d'Yves Robert, c'est l'ami cocu, l'ami ricané, le mari de Paulette, Paulette, Paulette. Un gars au bonnet rouge qu'il triture et qui croit avoir des hallucinations pendant que Pierre Richard, lui, vit un rêve éveillé et décolleté avec Mireille d'Arc, alors qu'en coulisses, Bernard Blier et Jean Rochefort se mènent une lutte sans merci, mais avec beaucoup d'échanges de civilité. Les silencieux s'activent, les placards abritent des cadavres, et Pierre Richard échappe bien malgré lui à tous les traquenards avec l'insouciance que l'on prête aux gens benêts. Vous l'avez évidemment reconnu, avec sa chaussure noire. C'est lui, c'est le grand blond. Il partira pour l'Amérique du Sud en portant dans ses bagages une Mireille d'Arc subjuguée. Il reviendra 2 ans plus tard pour signer son ultime retour. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il s'agit ici de l'adaptation rocambolesque de La Cinquième Corde, l'autobiographie du violoniste israélien Yigal Shamir. Mais place maintenant à la musique de Vladimir Cosma. Enfin, on parle de cinéma, plus précisément de films qui ressortent en DVD. Aujourd'hui, Eddie Lamarr et la femme déshonorée, sous la direction de Robert Stevenson. Le film est disponible chez Artus Film dans la collection Les Classiques. Je donne maintenant la parole à Luc pour sa présentation. Puis, on écoute un extrait suivi d'avis plus ou moins divers et divergents sur ce film.
Madeleine Damien, Eddie Lamarr, est une journaliste de mode au Boulevard Magazine. Elle tient la rubrique sur le luxe et tout particulièrement sur les bijoux. Le film commence par sa tentative de suicide. Elle précipite sa voiture sur le mur d'une maison. Par chance, elle n'est que légèrement blessée et chance encore, la maison qu'elle a percutée est celle du docteur Richard Caleb, joué par Maurice Karnowski, psychiatre de son état. Il comprend que la blessée est fragile psychologiquement et il l'alerte pour qu'il la soigne. Et très vite, on comprend ce qui ne va pas chez Madeleine Damien. Belle, hyperactive, elle ne résiste pas aux hommes qui lui tournent autour comme des mouches malsaines. Elle cède à Félix Cortland, vieux beau et fabricant de bijoux par ailleurs. Mais en même temps, elle continue ses séances de psychanalyse avec le docteur Caleb. Elle commence à comprendre l'impasse dans laquelle elle est, sous la surveillance de Caleb, quitte son travail, s'installe incognito dans une petite pension, jusqu'au jour où elle croise le beau docteur Cousins, Dennis O'Keefe, qui ne manifeste rien par rapport à elle. Elle l'assiste dans ses travaux de recherche, elle touche au but, la réconciliation avec elle-même et la découverte de l'amour vrai, mais la femme est faible et retombe dans ses déviances qui vont la conduire à sa perte. Le film est réalisé en 1947 par Robert Stevenson. Il dure 1h25 et rien n'est trop. C'est une romance noire dans laquelle Eddie Lamar plane majestueusement. Il y a une étrangeté dans ce film. C'est sa sincérité et son refus de présenter un portrait de faible femme. Et c'est réussi. C'est un petit film de série B qui n'a qu'une seule qualité, et pas des moindres, nous faire passer un bon moment. Et c'est réussi.
Now, if you feel like talking, just go ahead and talk. You're afraid, aren't you? Well, it's our job to find out why. To explore the shadows and throw light on what we find there. Then you'll be able to see yourself clearly and face yourself honestly. When you can do that, you won't be afraid anymore.
I was living with my father. Mother had left him before we came to America. I was 10. And to me, the way he lived seemed romantic and wonderful. He was a successful painter, and women adored him. He went his own way and did what he pleased.
Just as you've been trying to do?
I suppose so.
But why? Did it make him so very happy?
Oh, I was certain he was the happiest man in the world. Until he killed himself.
Then you couldn't understand why he did it. You understand now?
I think I do.
Did you ever do any painting yourself?
I used to.
Why'd you give it up?
Oh, didn't pay enough. And besides, I didn't want to be like my father. I wanted my own life.
And have you been living your own life?
Of course I have.
The kind of life you really want?
I don't know. I don't know.
Première remarque, mes amis de la bande de calibre, comme le matériau cinéma peut souffrir. La copie de ce film de 1947, même restaurée, est techniquement mauvaise. Cela doit nous inquiéter quant à la conservation de cet immense patrimoine du XXe siècle qu'est le cinéma. On est dans le cinéma d'après-guerre, le film noir prend son envol, et si la femme déshonorée est classée dans ce genre, c'est parce qu'il y a un crime. Mais ce crime, s'il provoque la chute possible de Madeleine Damian, jouée par Eddie Lamar, n'est qu'une anecdote presque artificielle. Ce que l'on retient de ce film, c'est la concordance entre le rôle que joue Eddie Lamar et sa vie réelle. Une femme libre qui conduit sa vie comme elle l'entend, hors du jugement de la société. Quand Madeleine Damian surprend une de ses secrétaires à cancaner sur elle, elle la vire sur le champ. C'est syndicalement dégueulasse, mais cela permet de comprendre son tempérament, et en ce point, le film est salutaire. Le film est taillé pour elle, il n'y a qu'elle sur l'affiche et elle est quasiment de tous les plans. Elle alterne tous les rôles, la femme d'affaires, la séductrice, l'amoureuse, jusqu'à la femme ivre qui refuse obstinément les avances du vieux beau, et on y croit. On est vraiment dans la série B et Robert Stevenson est juste un faiseur. La mise en scène est réduite à son strict minimum, pas de grands mouvements de caméra, des plans souvent serrés, rien que de très banal. Mais on n'est pas dans la mièvrerie et ce n'est dû qu'à la composition d'Eddie Lamar. Le personnage qu'elle fabrique à l'écran dépasse de loin les indications ou les directives du metteur en scène. Lui sait certainement où poser sa caméra pour capter ces moments, mais c'est elle qui produit les attitudes et les comportements. On y croit, et cette femme qui n'est pas une faible femme, seulement quelqu'un qui veut ne dépendre de personne. Mais une telle indépendance, c'est se mettre à dos tout le monde, et il en faut de la force de caractère pour ne pas craquer. Et tout ça, Eddie Lamar nous donne à le voir. Il y a dans le cinéma, comme dans les romans de gare, des petits films qui recèlent des richesses. La femme déshonorée en fait partie. Ce n'est pas insulte à lui faire de dire de lui que c'est un film qui ne prend pas la tête. Il fait ce que le cinéma doit faire au minimum, nous faire passer un bon moment. Et moi, j'en demande.
Chers auditeurs, voilà, donc une belle et heureuse année 2022. Figurez-vous que juste à la fin 2021, on avait la dernière fois eu l'occasion de parler d'un film extraordinaire, La loi de Téhéran, je ne le dirai jamais assez, un film extraordinaire. Et je ne remercierai jamais assez le Père Noël, parce que effectivement, Julien m'a fait croire au Père Noël, et je me suis dit, oui, le Père Noël existe, et pas seulement dans le cœur de chacun d'entre nous.
Alors je fais un tout petit rappel, nous avons donc que 5 minutes pour la chronique.
Oui. Alors.
Donc le Père Noël est passé, la loi de Téhéran, et là tu voulais dire quoi? Que c'était pas le Père Noël cette fois-ci qui avait apporté le film.
Oui. Là, cette fois-ci, c'est un coup du père Fouettard ou je sais pas. Mais alors, la première surprise, ça a été oh, c'est un film en noir et blanc. Et en fait, c'est pas que ce soit un film en noir et blanc, c'est que porté par le film précédent, on se disait ça va être encore un film actuel et avec beaucoup d'inventions, d'inventivité, du génie. Voilà. Et en fait, c'est pas que ce soit un vieux film, parce qu'il y a du génie dans certains vieux films.
Et tout là, ça pour
pas,
dire.
Pas dans celui-ci. En tout cas, moi, j'en ai pas vu. C'est pas qu'il y en a pas, mais j'en ai pas vu. J'ai été. Voilà. Alors, l'intrigue, on n'a pas peut-être besoin de revenir dessus.
Ça c'est fait.
Les comédiens, la comédienne, la morale américaine.
Tu mets tout dans le même sac, là, attention.
La musique composée par une femme, une certaine Carmen, et j'ai oublié le nom. En tout cas, une femme qui compose une musique, et ça, c'est pas commun. Par contre, il y a pas mal de réflexions sur un métier d'homme, un métier de femme. Et là, c'est vraiment une musique d'homme, quoi. C'est dégoulinant à souhait. De temps en temps, on va pouvoir faire penser à Wagner, mais pas souvent. La plupart du temps, on va faire penser à du dégoulinant à souhait. Un peu à l'image du film, finalement, ça colle bien. La musique colle bien au film.
Oui, alors, est-ce qu'on est... Alors moi, franchement, le côté artistique, je vais même pas du tout en parler. Parce que j'ai pas envie de commencer la nénine, ni de la poursuivre, ni en aucun cas. Je vois pas trop l'intérêt de. On a bien compris le message, hein, je pense. Je vois pas trop l'intérêt d'en rajouter. Non, c'est l'aspect sociologique, en fait, du film, qui est assez éclatant. Moi, je trouve, quand même. Toups, je sais pas ton avis. Que ce soit. Bon. Je vais commencer par le succulent que j'adore, parce que bon, je l'ai quand même aussi, moi, mangé quand j'étais jeune, de façon inconsciente, le mythe du prince charmant, quand même, qui fait que la vie de la jeune femme va changer. Non, c'est pas par elle-même. Alors c'est assez curieux, parce que le film voudrait défendre, par le psychiatre, que c'est le travail personnel et le fait d'affronter soi-même ces démons qui fait qu'on peut avancer et qu'on peut évoluer, etc. Et dans le même temps, il fait dire au personnage principal tu as changé ma vie, je n'aurais pas pu être autre, enfin voilà, je pouvais pas être autre chose sans toi, c'est grâce à toi, je peux pas vivre sans toi, tatati tatata. Et que en fait la femme vit par rapport à l'homme. Alors je me suis dit oui, alors évidemment on est dans les années 50, hein. Donc c'est pour ça que je disais l'entrée sociologique, on est dans une Amérique blanche. Hein, j'ai pas vu, il y a du noir et blanc, mais que dans la couleur de la lumière. Hein. Sinon, j'ai pas vu d'autre chose. Et puis, c'est des gens riches. Hein, donc, on est toujours dans une classe sociale qui a trop de problèmes dans la vie, quand même, c'est trop dur. Et elle a plein de trucs à dire.
Ah oui, non, mais sois pas cynique, franchement, c'est pas sympa. C'est des gens qui ont beaucoup de problèmes.
Oui. Et effectivement, donc, c'est une femme qui a un métier dit d'homme, puisque visiblement c'est la seule à travailler. Les autres, c'est quand je dis travailler avec un poste de responsabilité, les autres sont secrétaires ou potiches, et ou les deux. Voilà, c'est grosso modo, c'est une plongée. Ouais, voilà, je le vois vraiment comme un instantané sociologique d'une catégorie très spécifique de la société américaine, un instant T, quoi. Mmh. J'ai même pas rigolé.
En fait, il y a pas d'humour dans ce film.
Ah, c'est ça. C'est peut-être pour ça.
Il y a pas d'humour. C'est vrai que ça, c'est Même dans les films, je pense à des films avec Humphrey Bogart, les Casablanca, les Faucon Maltais, des trucs comme ça, il y a toujours une pointe d'humour. Il y a toujours un peu d'humour. Mmh. Et là, il n'y en a pas du tout, du tout, en fait. Non, ils ne savent pas ce que c'est l'humour. Ça ne sert pas à grand-chose.
Mmh, voilà. Est-ce qu'on trouve un truc gentil, positif, Père Noël-esque à dire pour finir?
Ben, ce que je trouve gentil et Père Noël-esque, c'est de pouvoir éviter aux auditeurs de perdre le temps que nous avons perdu, nous, en regardant ce film.
Oh la vache, le tout! Je n'ai jamais entendu dire ça d'un film.
Je ne dis jamais ça ni des films, ni de rien, mais on est dans une nouvelle année. Hein. Il y a plein de choses qui peuvent changer.
On est à fond. Et bonne année!
Alors moi, ce qui m'a intéressé dans La Femme déshonorée, c'est justement ceux que n'ont pas vu mes petits camarades qui n'ont pas aimé ce film. À savoir que Hedy Lamarr est l'incarnation même de la femme fatale du film noir et qu'elle en souffre. Et oui, c'est une femme à qui tout réussit. Elle suscite dans son travail la jalousie et des hommes qui, eux, estiment qu'ils devraient être à sa place et des femmes qui, elles, la rabaissent, seul moyen pour elle de s'élever. Hedy Lamarr multiplie les histoires d'une nuit alors qu'elle cherche quelque chose d'autre, de plus stable. Et surtout, alors que tout pourrait lui sourire, elle est suicidaire. Et le psychiatre, joué par Maurice Karnowski, contrairement à ce qui a été dit, est très clair envers deux personnes, Hedy Lamarr et Denise O'Keefe, à savoir que c'est à elle et elle seule de trouver sa voie, ce qui équivaudra à expliquer un peu plus tard à O'Keefe dans les couloirs d'un tribunal qu'il doit l'aimer comme elle est, et pour ce qu'elle est, et non pas pour ce qu'elle paraît être. D'ailleurs, et j'insiste là-dessus, le titre du film est particulièrement explicite, « La femme déshonorée ». Donc, déshonorée par les hommes. Le personnage de l'avocat général et celui du millionnaire ne sont là que pour montrer l'emprise masculine sur une femme tourmentée. Le film, qui est produit d'ailleurs par Hedy Lamarr, dénonce le puritanisme, la morale, les apparences fausses d'une société corsetée, étriquée. On a redécouvert il y a quelques années qu'Hedy Lamarr était une féministe avant d'être une reine de beauté. Le film est sorti en 1947. En 1958, Alfred Hitchcock réalisera Vertigo. Alors, loin de moi l'idée de comparer ces deux films dont un est un pur chef-d'œuvre, mais regardez-les à la suite l'un de l'autre. Vous y verrez beaucoup de points communs entre Hedy Lamarr et Kim Novak dans leur interprétation d'une femme à la double identité ou double personnalité ou un peu des deux et au même prénom, Madeleine. Nul doute que le maître du suspense a été puisé un peu de son inspiration dans ce film. Quant à Robert Stevenson, réalisateur émérite, il trouvera la gloire en dirigeant Mary Poppins. Et voilà. On approche de la fin de notre émission. Aujourd'hui, nous recevions par téléphone Olivier Gallien pour Dans la neige ardente. Je l'ai dit et redit, mais je le redis encore, c'est chez Robert Laffont, dans la collection La Bête Noire. Luc, lui, nous racontait sa toute première fois entre Joséphine Tay et Alan Grant de Scotland Yard. Quant au film de notre débat DVD, il s'agissait de La femme déshonorée de Robert Stevenson avec Hedy Lamarr et Denise O'Keefe. C'est chez Artus Film. À dans 15 jours, les amis. On se quitte avec Haut les mains, tiré de l'album Bing Bang Boom des Eternal But Not Dead Tetraed. Rendez-vous sur notre page Facebook ou sur le site de Radio G pour en savoir plus. Bye bye.
le scénarium et la matière.